Bon Père Céleste, toi qui nous aimes tant, qui suis-je de me tenir devant ton peuple? Tu nous as promis ton Saint-Esprit, alors je réclame cet Esprit. Pardonne nos fautes, nos péchés, pardonne mes péchés. Et accorde-moi l'opportunité d'être un instrument dans tes mains. Que tes anges rentrent dans cette salle et nous aident à comprendre ta parole, à accepter ta parole, à être transformés par ta parole. Quand nous regardons le Québec, c'est un si petit groupe. Mais comme Jonathan dans la Bible a dit, tu peux sauver avec beaucoup ou avec peu. Pour toi, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de barrière. Alors déverse sur nous son Saint-Esprit, on t'en supplie. Et parle ce soir, au nom de Jésus. Amen. Ce soir, ça ne sera pas vraiment un sermon. J'aimerais juste, ça sera une étude biblique un peu, et j'aimerais juste parler de mon cœur à votre cœur. C'est quelque chose qu'on va parler que c'est un problème pour moi, et je suis sûr qu'il y en a dans la salle, c'est un problème aussi. Et j'aimerais juste que vous restez avec moi jusqu'à la fin. Il y a un but où on s'en va, une destination. Par la grâce de Dieu, on va y arriver. Le mouvement adventiste du septième jour a été reçu en morceaux de la main de certains nombres d'hommes et de femmes. Et il y en a qui vont être surpris que Madame White ou Ellen White, l'Église n'est pas fondée sur elle, ou même pas sur ses écrits. Et il y en a qui sont surpris, il y en a qui ont été élevés à l'Église, et pour eux, c'est Madame White qui est vraiment le fondement de ce mouvement. Mais la réalité, c'est que, personnellement, je ne me rappelle même pas d'une doctrine qui a été découverte uniquement par Ellen White. Alors, c'était d'autres personnes, et c'était de la Bible et pas basé sur les visions. Mais je vais juste vous parler au commencement de quelques personnes. La première personne s'appelait Josiah Litch. Puis Litch avait suivi les traces de dizaines de commentateurs comme William Miller. Et dans son utilisation d'un principe de une journée égale quoi? Une année pour l'interprétation des prophéties. Cependant, il avait été la première personne qui a fait une prédiction basée sur ce principe qui a rencontré un accomplissement direct et visible. Quelqu'un se souvient de ce qu'il a prédit?
L'Empire ottoman,
la chute. La chute de l'Empire. Il a prédit exactement la journée où l'Empire ottoman, qui avait duré des centaines d'années, allait s'écrouler. C'était l'Empire ottoman, c'est maintenant la Turquie, ou ce qui reste. C'était le 11 août 1840. Le monde a été stupéfait. Une autre personne s'appelait George Storr. Et Storr, c'était un prédicateur millérite qui a publié 6 sermons sur l'état de l'homme dans la mort. Ils sont devenus le fondement d'une croyance commune que la mort, c'est un sommeil. Et ça, c'est une partie, on s'est basé sur ça, sur son étude, qu'on croit maintenant que la mort, c'est le sommeil. T.M. Pramble. Pramble a publié un pamphlet sur quoi? Est-ce que quelqu'un connaît son histoire? Sur le sabbat. Le sabbat, c'était le septième jour de la création. Alors, il a créé un pamphlet et Joseph Bates a trouvé ce pamphlet-là. Et quand Joseph Bates l'a accepté, il a été voir un couple qui s'appelait Ellen White et James White. Et à cause de ça, eux autres aussi, ils ont accepté éventuellement le sabbat. Une autre personne, Enoch Jacobs. Jacobs a été un rédacteur en chef d'un journal millérite dans le Maine appelé L'Astre du jour, or Morning Star. Le 24 janvier 1846, il est devenu le premier homme à publier un compte rendu des visions de Ellen White. Elle s'appelait dans ce temps-là Ellen Harmon. O.R.L. Crozier, Crozier en français, un ami de Hiram Edson, a été le premier homme à avoir publié une explication de ce qui s'est réellement passé le 22 octobre. Son explication du sanctuaire a formé un pilier dans le mouvement qui est devenu notre Église adventiste. Et Ellen a été montrée en vision que cet article que Crozier a écrit pourrait être recommandé en toute sécurité à chaque saint. La dernière personne que je veux parler, c'est Samuel Snow. J'ai mis ça pour traduire dans Google, ça s'appelait Samuel la neige. Il ne faut pas toujours se fier à Google. En tout cas, Samuel Snow. Il était le premier qui sonna la trompette, et cette trompette est devenue le cri de minuit de l'été de 1844 et la renaissance du mouvement du septième mois, qui est vraiment a pris fureur que Jésus allait revenir. Il y en a beaucoup d'autres qui ont été des pionniers, qui ont fondé les principes, ou ont découvert les principes de quoi nous croyons aujourd'hui. Mais tu sais, quelque chose qui est intéressant, c'est que Pramble, il a abandonné le sabbat. Et Leach a abandonné le principe de un jour égale une année, même après avoir vu l'Empire ottoman tomber. Jacobs est devenu un spiritualiste. Crozier a renoncé à la doctrine du sanctuaire. George Storrs est devenu un faux prophète au cours des derniers jours du septième mouvement. Et Snow a quitté le mouvement adventiste complètement. Ces hommes ont été utilisés par Dieu d'une manière incroyable. Mais pourquoi? Pourquoi ils sont partis? C'est pas qu'ils étaient juste adventistes, puis qu'ils sont venus, puis ils sont écoutés, puis... Ils étaient impliqués, c'est des gens qui ont prêché, c'est des gens qui ont converti d'autres personnes. Et ils sont partis. Ça me laisse à savoir, est-ce qu'il y a de l'espoir pour moi ou pour toi? Il y a des questions. Je parlais à Jean-Guy, il me disait, le nombre de personnes, des Québécois qui sont partis de l'Église depuis que je suis parti du Québec. Et ça, c'est des gens qui... Je me rappelle des gens qui se tiennent debout, ils donnent des témoignages de la bonté de Dieu, comment Dieu a répondu leurs prières, comment ils ont perdu leur job à cause du sabbat, puis Dieu a été tellement, il a donné un autre job avec plus de paye. Les mêmes personnes ne sont pas dans l'Église aujourd'hui, il y en a qui ne croient même pas en Dieu. Est-ce qu'il y a l'espoir pour moi et pour toi? Est-ce que moi aussi, un jour, je vais devenir froid? Un jour, je vais laisser le Seigneur? Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut me garantir qu'un jour, je vais être correct? Ce soir, je veux passer un peu de temps dans la Bible. Je veux passer un peu de temps dans la Bible pour découvrir un peu ce que la Bible a à dire à propos de la conscience. Parce que moi, je ne peux pas voir ta conscience, puis gloire à Dieu, tu ne peux pas la voir la mienne non plus. Mais je pense que c'est très important d'étudier cela. Parce qu'il y a du monde que tu regardes dans l'église et que tout va bien, on dirait, et la seconde après... Le gars, il est parti, il a laissé sa femme, il est parti avec une autre fille, qui est deux fois plus jeune que lui. Et tu te demandes, qu'est-ce qui est arrivé? Sabbat passé, il enseignait à l'école du sabbat. Ça, c'est juste un exemple. Mais je peux vous garantir que des choses comme ça, un gars qui prêchait, j'ai appris il y a deux ans, la semaine après, il décide que l'Église catholique, c'est la bonne Église. L'Église adventiste, c'est la mauvaise Église. Il est convaincu. Comment ça arrive? Je vous garantis que ce n'est pas quelque chose qui arrive comme ça. C'est comme le divorce, ça prend des années. Mais on sourit, on montre que tout va bien, on vient même à Jaffa et on loue Dieu, on va dehors, on va passer des pamphlets, mais il y a un problème. Il y a un problème dans la conscience. Et tout d'un coup, peut-être il n'y a rien qui arrive, mais parfois, c'est quand les choses arrivent. Quelqu'un meurt dans la famille, on a le cancer, quelque chose arrive. Et là, c'est comme la goutte d'eau, ça se dit-tu? La goutte d'eau qui fait déverser. Et people flip. Vous avez vos Bibles? On va commencer. Jean chapitre 8. Jean chapitre 8. On va commencer avec le verset 7. Jean chapitre 8. Le verset 7. Et 7 à 9. On parle de quoi? La conscience. Jean chapitre 8, versets 7 à 9. Ça, ils ont amené une madame qui était prise dans l'adultère devant Jésus. Et là, ils commencent à demander à Jésus qu'est-ce qu'on doit faire. Est-ce qu'on doit lapider ou qu'est-ce qu'on doit faire? Alors, le verset 7 nous dit, « Comme ils continuaient, c'est les pharisiens et les scribes, à l'interroger, il se releva et leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par quoi? Ils se retirent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Une question, ou trois questions, ou deux questions, on va voir. C'est qui a dit que celui qui jette la première Pierre, qui a s'empêché, c'est Jésus. C'est qui a accusé la femme? C'était qui? Les Juifs, les pharisiens. C'est qui a accusé les pharisiens? Leur conscience. C'est Jésus qui les a accusés?
Non.
La conscience les a accusés. Premier principe, la conscience nous aide à discerner entre le mal et le bien. On connaît ça. La conscience, contextuellement parlant, est le moyen utilisé pour emmener la conviction que quelque chose est mauvais. Alors, la conscience nous aide à discerner entre ce qui est bien et ce qui est mauvais. Et la manière que la conscience nous aide à faire ça, c'est en nous envoyant la conviction que quelque chose est mauvais. Et comme ça, on sait que c'est mauvais et que les autres choses sont bonnes. Question pour vous. Ça, c'est la question $1 million. Peut-on toujours faire confiance à notre conscience?
Non.
Qui dit oui?
Non.
Parce que c'est Jésus qui nous a donné la conscience, non?
Oui.
C'est pas Satan?
Non.
C'était pas Satan qui Satan voulait que la fille meure. La conscience des Juifs qui n'étaient même pas convertis les condamne. On peut faire confiance à notre conscience. Amen? C'est qui dit oui? Qui dit non? Qui sait pas? OK, Tite chapitre 1. Le livre de Tite chapitre 1, le verset 15 à 16. Tite chapitre 1, le verset 15 à 16. Après Timothée, le livre Tite chapitre 1, verset 15, ça dit « Tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leur intelligence et leur conscience sont quoi?
Souillés.
Ça a-tu l'air d'une bonne conscience, ça?
Non.
Alors ici, on trouve que ça existe. La conscience peut être souillée. Ça, c'est le principe numéro 2. C'était quoi le principe numéro 1? C'est ça. La conscience nous aide à discerner entre le bien et le mal. La manière dont ça fonctionne, c'est que ça emmène la conviction quand on fait le mal. Alors, on sait qu'est-ce qui est mal. Le point numéro 2 ou principe numéro 2, c'est que la conscience, par contre, peut être souillée. Parce que les gens ici, à titre chapitre 1, la conscience est souillée. Verset 16, il dit, « Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres, étant abominables, rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre. » Dans lettre 1884, en tout cas, Ellen White, dit, nombreux sont ceux qui pensent qu'un homme peut faire tout ce qu'il croit en conscience être juste. Mais la question se pose de savoir si l'homme possède une conscience bonne et bien éclairée ou si elle a été faussée, déformée par ses propres idées préconçues. La conscience ne saurait remplacer le mot d'ordre, ainsi dit le Seigneur. Les consciences ne sont pas toujours d'accord entre elles et ne sont pas toutes inspirées au même degré. Certaines sont insensibles, comme si elles avaient été cautérisées au fer rouge. Les humains peuvent se tromper en toute bonne foi, comme ils peuvent faire le bien en conscience. L'apôtre Paul ne croyait pas en Jésus de Nazareth et il pourchassait les chrétiens de ville en ville en croyant sincèrement servir Dieu de cette manière. Our high calling. Il ne suffit pas qu'un homme se croit hors de danger en suivant la voie de sa conscience. La question qui doit être tranchée est celle-ci. Est-ce que la conscience est en harmonie avec la parole de Dieu? Sinon, on ne saurait se fier à elle sans danger, car elle en induirait en erreur. La conscience doit être éclairée par Dieu. Il faut prendre le temps nécessaire pour étudier les Écritures et pour prier. Ainsi, l'esprit sera stabilisé, fortifié, pacifié. Principe numéro 3 se trouve dans 1 Timothée 4, verset 1. 1 Timothée, on recule un peu. 1 Timothée, chapitre 4, le verset 1 et 2. Ça nous dit, « Mais l'esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons par l'hypocrisie de faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur quoi? Propre conscience, prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient toutes des choses, mauvaises choses qu'ils font. » Alors, de la Bible, on a vu que la confiance nous aide à discerner entre le bien et le mal. On a aussi découvert que on ne peut pas faire confiance à notre conscience. La seule fois qu'on peut faire confiance à notre conscience, c'est que si c'est en accord avec la parole de Dieu. On a appris aussi que la conscience peut être quoi? Souillée. Alors, il y a des bonnes consciences et il y a des mauvaises consciences. Et si on voit que la conscience est devenue flétrie, c'est quoi le mot? Ouais, j'ai regardé ce mot dans le dictionnaire parce que j'avais aucune idée de ce que ça voulait dire. Ça veut dire terni ou souillé. La Bible Darby nous dit conscience cautérisée ou cicatrisée. Je ne sais pas si quelqu'un s'est déjà brûlé ou. Il y a quelque chose d'intéressant avec la cicatrice. C'est que la cicatrice, tu ne ressens plus. Les nerfs sont brûlés. Ça devient désensibilisé. Alors, la conscience ici des personnes dans 1 Timothée 4, c'est des gens qui sont désensibilisés. En autre mot, la conscience peut être non seulement souillée, mais la conscience peut aussi être désensibilisée. Alors, je pense que c'est un autre degré. Comme un exemple, Madame Madame Paulette. Madame Paulette est une bonne catholique. Et Madame Paulette, quand elle ne va pas à l'église le dimanche, elle se sent tellement coupable parce que c'est le jour du Seigneur. Alors, tu le rencontres mardi et tu dis, qu'est-ce qui t'est arrivé? Non, j'ai pas été. Pourquoi t'as pas été? Ben, je me sentais pas bien, mais je me sens tellement coupable parce que vraiment. Et tu dis, ah, est-ce que tu t'es senti coupable que t'as pas été à l'église samedi? Mais non, voyons non. Samedi, pourquoi? C'est dimanche. Je me sens coupable parce que je n'ai pas été à l'église le dimanche. Madame Fréchette, c'est une bonne adventiste, puis elle n'a pas été à l'église le samedi. Et mardi, tu le rencontres et elle dit, tu te sens-tu bien? Non, je me sens pas bien parce que je me sens un peu coupable. J'ai skippé l'église, le church, j'ai pas été à l'église. Est-ce qu'elle se sent coupable qu'elle n'a pas été à l'église le dimanche? Non, parce qu'elle sait que le sabbat, c'est le quoi? Puis M. Fauché, il s'en fout du dimanche ou du samedi. Pour lui, tu lui dis, t'as pas été à l'église samedi ou dimanche, tu te sens coupable? Non, je crois même pas en Dieu. Alors, les trois, ils ont une conscience différente. Une personne se sent coupable à cause qu'il n'a pas été le dimanche, l'autre à cause qu'il n'a pas été le samedi, et l'autre à cause... Mais non, l'autre, il ne se sent même pas coupable. Il ne croit même pas en Dieu. Alors, tous les trois se fient à leur confiance pour avoir la paix de l'esprit pour trouver le bonheur. L'esprit de prophétie. Ma conscience, quelqu'un dira, ma conscience ne me condamne pas du fait que je ne garde pas les commandements de Dieu. Mais la Bible nous dit qu'il y a de bonnes et de mauvaises consciences. Et le fait que votre conscience ne vous accuse pas de ne pas respecter la loi de Dieu ne prouve pas que vous êtes innocent à ses yeux. Si vous voulez les références plus tard, je peux vous donner. Alors, on peut voir ici non seulement que la conscience peut être souillée, la conscience peut non seulement être souillée, mais la conscience peut être aussi quoi? Désensibilisée. Et la conscience peut se rendre à un autre niveau. Ça se trouve dans Jean chapitre 16, verset 1. Jean chapitre 16. Un autre niveau. Jean chapitre 16, la Bible nous dit, « Je vous ai dit ces choses afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. Ils vous excluront des synagogues et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira, sincèrement croira, rendre un culte à Dieu. » Une autre place, dire croire, rendre service à Dieu. J'aide Dieu, je suis en train de l'aider en tuant les vrais croyants. Alors, souillé, désensibilisé et rendu à un point que c'est quoi le mot? On ne peut pas lui faire confiance. C'est rendu à la conscience est rendue à un point où, distorsionné, où tu as péché contre le Saint-Esprit. Et tu ne peux pas me dire que ça ne peut jamais t'arriver. Et moi, je ne peux pas me dire que ça ne va pas m'arriver. C'est juste par la grâce de Dieu que notre conscience, que Dieu peut continuer à faire ce qu'il veut faire en nous. Parce que quand tu vois les gens qui se sont détournés de Dieu, il y en avait qui étaient beaucoup plus intelligents que toi et moi. Il y en avait que peut-être dans leurs expériences, dans un temps de leurs expériences, ils étaient beaucoup plus peut-être commis et même spirituels que toi et moi. Il y a quelque chose qui est arrivé avec leur conscience. Une confiance, ici dans Jean chapitre 16, on voit une conscience, un groupe de personnes qui ont la conscience éduquée par les sentiments, par les enseignements des populaires, par la télé, par les pasteurs, par les chefs religieux, le monde en général. Et ceux qu'ils sont en train de tuer, c'est un autre groupe, un groupe que leurs consciences ont été éduquées par le Saint-Esprit à travers la parole de Dieu. Encore, l'esprit de prophétie nous dit, une conscience violée est fortement affaiblie. Elle doit alors être fortifiée par une vigilance constante et une prière continuelle. Peut-être vous vous demandez, pourquoi j'essaie d'être un chrétien, c'est tellement dur. Tu ne peux pas juste prier et revenir. Si tu as offensé ta confiance pour des années, vigilance constante et une prière continuelle. Une autre place, ça nous dit, celui qui cède une première fois à la tentation, il succombera plus facilement la fois suivante. Toute rechute dans le péché diminue sa capacité de résistance, obscurcit sa vision et étouffe la voix de la conscience. Vous savez, c'est l'Esprit Saint qui utilise la conscience pour nous parler. Mais cette conscience doit être éduquée avec la parole de Dieu. Ça continue et dit, « Chaque graine de laisser aller portera son fruit et Dieu ne fera aucun miracle pour faire obstacle à cette moisson. » Patriarche et prophète. Je me rappelle, quand j'étais un peu plus jeune, quand j'étais très jeune, on n'avait pas de télé. Et j'avais peut-être 4 ans ou 5 ans. Je me rappelle, je passais le bureau de mon père et j'ai vu là une télé. Mon père regardait les nouvelles. Il venait juste d'acheter une télé noire et blanche. Je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est à peu près comme ça. Tu peux tourner la corde en arrière. Non? OK. J'essaie d'avoir un peu de sympathie, un peu de... OK. C'est pas que je suis vieux, c'est juste que mon père voulait pas acheter une grosse télé couleur. Il voulait acheter une petite télé, un petit péché. Non. La télé, il y a des bonnes choses, comme il est écrit, amen. En tout cas, il avait acheté cette télé noir et blanc. Puis, parce qu'il voulait écouter les nouvelles. Alors, une fois ou deux fois par semaine, on sortait la télé, on regardait un petit peu de nouvelles. Et on regardait un petit programme, peut-être Passe-partout, quelque chose comme ça pour les enfants. On a grandi. Ce qui arrive aux enfants, ils grandissent. Et ce qui arrivait, c'est que chaque fois mon père, après qu'on finissait d'écouter la télé, il fallait ranger la télé. Parce qu'on ne laissait pas la télé dans le salon. Non, non, non. Alors, je me rappelle qu'on commençait à grandir. Et là, bien sûr... il faut écouter la télé. C'est vraiment ça que les jeunes aiment faire. Et quand papy et maman étaient partis, alors André, toi, tu regardes là-bas, moi, je vais regarder ça. On va aller chercher si on peut trouver la télé. On trouvait toujours la télé. On sortait la télé et on écoutait la télé. On était chanceux que mon père avait une Golf diesel. Alors, on pouvait... on pouvait l'entendre d'un kilomètre. Alors, quand on entendait la diesel, la Golf, vite, on savait quoi faire. Toi, tu prends l'antenne, moi, là. Et là, on range ça exactement là où on l'a trouvé. Et on ouvre notre Bible. Et on commence à lire et prier. N'importe quoi. Je sais pas si mon père a jamais deviné. C'est sûr qu'un jour, mon père a acheté une télé couleur.
Plus grosse.
Éventuellement. Mais il y a quelque chose que quand je regarde mon expérience avec cette télévision, j'analyse un peu les choses. Quand je voyais les gens qui... quand on voyait les gens qui sacraient, ou qui volaient, ou on voyait peut-être la violence, ou même l'immoralité sexuelle. En premier, on fermait la télé. Et après, on ne fermait pas, on disait, on peut juste changer de réseau, c'est tout. Et en premier, vraiment, ça nous dérangeait vraiment. C'était vraiment, ça te dérange. En tant que jeune, tu ne vois pas ces choses-là. Tu es né dans une famille chrétienne. Chaque soir, tu lis les belles histoires de la Bible. Chaque matin, au midi, tu as ta prière. Tout. Et ça me dérangeait vraiment. Mais le plus qu'on écoutait, le plus que j'ai réalisé dans ma vie personnelle, les stages, premièrement, c'était dérangement total. On change de canot, même on ferme la télé. Deuxième stage, je suis inconfortable, mais peut-être je regarde juste quelque part d'autre pendant que ça finit et après on continue de regarder. Le troisième stage, je regarde, je deviens comme indifférent. C'est juste la télé, c'est pas la vraie vie. Et le quatrième stage, je commence à y trouver plaisir. Tue-le! Oui, tue-le! Vas-y avec! Vas-y! Hey, dis-moi pas que je suis le seul qui a passé à travers ça. Parce que le gars, c'est le bon gars qui va tuer le mauvais gars, puis il va vraiment, tu vas l'avoir! Je suis le seul? Frappe-le, tue-le. Même trouver tes plaisirs dans les scènes immorales. Un jour, j'ai pensé, si Jésus était assis juste là et m'avait entendu dire ces choses-là, et la seule chose que je pouvais imaginer, c'était Jésus en larmes. Pour vous, peut-être c'est quelque chose d'autre. La conscience, le rapport de la conscience avec le péché, c'est toujours le même résultat. Et peu importe le péché. Ça peut être travailler le sabbat. Première fois que tu travailles, tu ne te sens pas correct. Deuxième fois, troisième fois, il y en a après un bout, c'est même pas un issue. C'est même pas un problème. Et on pense à cause que c'est pas un problème, on est correct. Parce que si vraiment c'était un problème, l'Esprit de Dieu m'aurait convaincu, ma conscience. Peut-être c'est de traiter quelqu'un de proche méchamment, comme ta mère ou ton frère. En premier, tu te sens mal. Après, tu ignores les sentiments de culpabilité. Tu commences à te justifier et finalement, tu commences à y trouver plaisir. Et on se dit, après tout, tu sais, après ce qu'il m'a fait, il en mérite encore pire. Peut-être c'est une relation que tu ne devrais pas avoir. Avec un gars, avec une fille. Pour d'autres personnes, c'est le porn. Il y a tant de jeunes avec qui je parle qui ont problème avec le porn. Et le pire, c'est que ça affecte leur capacité de grandir spirituellement. La conscience devient désensibilisée. Un jour, j'aimerais faire un atelier sur ça, sur la pureté. Et même les filles ne sont pas exemptes. Les romans, les soap operas, les castle building, dans leur tête, sont aussi pires que ça. Et peut-être, il fut un temps où toi, tu pleurais quand tu commettais un certain péché, mais maintenant, c'est « Jésus, pardonne-moi, puis demain, j'espère que je ne vais pas faire la même chose. Jésus, s'il te plaît, pardonne-moi, puis Jésus, pardonne-moi, puis... Ah. » OK, il faut ouvrir notre vie. Est-ce qu'il y a de l'espoir pour toi? Est-ce qu'il y a de l'espoir pour moi? Apocalypse chapitre 3, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a de l'espoir? Apocalypse chapitre 3, le verset 16, ça parle de l'église de Laodicée. Jésus nous dit, « Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te quoi? Vomirai de ma bouche, parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. » Alors ici, on a un groupe de personnes qui pensent qu'ils sont corrects, mais dans le fin fond, ils ne sont pas corrects. Et ce n'est pas juste qu'ils ne sont pas corrects. Jésus est en train de leur dire, votre conscience n'est pas bonne. Parce que ce n'est pas que tu es aveugle et tu sais que tu es aveugle et tu essaies d'agir comme si tu n'es pas aveugle, mais vraiment dans le fond, tu sais que tu es aveugle. Le fait, c'est que tu es aveugle et tu ne sais même pas que tu es aveugle. Un problème de conscience. Et la réalité, je ne vais pas rentrer dans ça aujourd'hui, mais la réalité, c'est que l'Église de Laodicée est à deux pas du péché contre le Saint-Esprit. Et comment je sais ça? C'est qu'on nous dit que dans les derniers temps, les gens qui vont laisser l'Église vont être ceux qui vont être encore les plus agressifs à persécuter ceux qui sont fidèles. Leurs consciences sont rendues en bas. C'est des gens qui n'étaient pas actifs, mais ils n'étaient pas sortis de l'église. Chaque jour, ils rentraient à l'église. Chaque sabbat, ils écoutaient. Mais leur conscience, même péché qu'ils commettent chaque jour, chaque semaine. Et finalement, quand le shaking arrive, Jésus nous dit en autre mot, la conscience de l'Église de Laodicée n'est pas bonne. C'est comme une maman qui un jour... C'est comme Jésus dans Apocalypse doit venir nous asseoir. Comme une maman s'assoit avec sa petite fille qui est aveugle. Et peut-être vers 2 ou 3 ans, la maman doit expliquer à la fille qu'est-ce que c'est d'être aveugle. Qu'est-ce que c'est que de voir? Essayez d'expliquer. Et c'est ça qu'on a besoin. Parce qu'on pense qu'on est correct. C'est comme la fille qui est née aveugle. Pour ça, pour elle, c'est la réalité. Qu'elle se frappe et toutes sortes de choses. Elle ne sait pas quoi faire. Mais un jour, quelqu'un doit l'asseoir et dire, « Écoute, Marie, tu es aveugle. » Mais c'est quoi être aveugle? Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, ça veut dire que tu ne peux pas voir. Mais c'est quoi voir? Laisse-moi t'expliquer. C'est une des places que j'ai été en Thaïlande une fois. Ça m'a vraiment tordu le cœur. On a été avec une chorale. On a été chanter dans une école de personnes aveugles. Et tu les voyais rentrer dans le gymnase. Chacun tenait leur main. Et il y avait comme 400 ou 500 qui sont rentrés. Tout aveugles. Et... vraiment, ça touche le cœur quand tu vois ces jeunes comme ça. Mais ces jeunes-là, je peux vous garantir qu'ils savent qu'ils sont aveugles. Le problème, c'est Laodicée ne sait pas. Est-ce qu'il y a de l'espérance? Marc chapitre 10 va finir avec cette histoire. Marc chapitre 10. Verset 46, ils disent, « Ils, c'est Jésus et les disciples, arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et se mit à quoi? Crier. « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi! » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi! Aie pitié de moi! » L'histoire de Bartimée, c'est un peu parallèle avec peut-être mon histoire. Bartimée, il était aveugle physiquement, puis moi, je suis aveugle spirituellement. Puis Bartimée, il crie, il ne sait pas voir, mais au moins, il sait qu'il est aveugle et il commence à crier. Et moi, je ne peux pas voir, mais la seule raison que je sais que je suis aveugle, c'est à cause que Jésus, en Apocalypse, me dit que je suis aveugle. Alors, je commence à crier. Je crie parce que je suis aveugle spirituellement. Je crie et je pleure, « Seigneur, aie pitié de moi. » Non parce que je ressens le remords du péché, mais je crie pour que tu puisses avoir pitié parce que je n'ai pas de sentiment de culpabilité. Je suis aveugle. Je crie et je pleure, aie pitié de moi, parce que je suis fatigué d'être aveugle, de ne pas capable de voir et d'apprécier les vérités spirituelles. Vous savez, il fut un temps où certains d'entre nous, on pleurait après avoir commis certains péchés. Certains d'entre nous, on ne pouvait pas entendre un sermon sur l'amour de Dieu sans que ça nous touche dans le cœur. Mais maintenant, on peut pécher sans se sentir coupable parce que notre conscience est désensibilisée. On peut entendre un sermon sabbat après sabbat et tout ce qu'on peut faire, c'est critiquer le prédicateur. On ne pardonne pas, on est rempli d'orgueil, nous sommes déprimés, nous sommes découragés. Alors, criez. Criez, frères et sœurs. Criez, Seigneur, fils de David, aie pitié de moi. Pourquoi? Pourquoi l'Église de Laodicée doit crier? Parce qu'on est perdu, frères et sœurs. Et dans le plus profond de notre cœur, excusez l'expression, mais on s'en fout. Parce que si vraiment ça nous tenait cher, on passerait toute la nuit en prière jusqu'à temps qu'on a la paix de Dieu. C'est ça que nos pionniers faisaient. Ils nous disent que parfois on passait 2, 3, 4 heures jusqu'à temps qu'on puisse avoir cette paix que Dieu est dans notre vie. Et là, on partait pour la journée et là, on faisait quelque chose. Mais nous autres, on sait que quelque chose n'est pas quoi tellement correct. On ne sait pas trop c'est quoi. On est aveugle. Ça veut dire qu'on est perdu. Mais dans le fin fond, notre conscience est souillée. Et on s'en fout. Alors, il faut crier. Il faut crier et dire, Seigneur, fils de David, aie pitié de moi. Je suis aveugle, je ne peux pas voir, je ne peux pas voir les choses spirituelles. Si je pouvais voir les choses spirituelles, je pourrais te suivre, je pourrais faire ta volonté, mais je suis aveugle. Et la seule raison que je sais que je suis aveugle, c'est à cause que tu me dis dans ma parole. C'est pas à cause, parce que moi, si c'était pas par la parole, je penserais que je suis correct. J'ai un problème de conscience. Alors Seigneur, tu dois changer ma conscience. Tu dois sensibiliser ma conscience. Et c'est ça, recevoir la vue. Seigneur, fils de David, aie pitié de moi. Vous savez, le prochain verset, c'est un des textes les plus puissants pour moi de toute la Bible. Ça nous dit dans le verset 49, Jésus s'arrêta. Jésus s'arrêta. Vous savez, Jésus, je ne sais pas trop qu'est-ce qu'il fait. On sait qu'il est en haut, puis il répond à des millions de prières, puis il y a le jugement aussi, puis il y a toutes sortes d'affaires qui se passent, des anges qui rentrent, qui sortent du trône, de la salle de trône. Il y a toutes sortes de choses qui arrivent, mais je peux vous garantir que s'il y a un pécheur qui s'agenouille et dit, « Seigneur, ma conscience est souillée. Je pêche, j'entends des sermons, et je ne change pas de semaine après semaine. Seigneur, je suis aveugle. » Et quelqu'un qui s'agenouille et qui crie, « Jésus, fils de David, aie pitié de moi. » Il y avait beaucoup de personnes dans la foule cette journée-là. Mais je vous garantis, Jésus s'est arrêté pour seulement une personne. Jésus s'arrêta. Et quand un de ses enfants réalise le niveau spirituel ou le manque de niveau spirituel, s'agenouille et commence à implorer Dieu d'avoir pitié, implorer Dieu d'envoyer son Saint-Esprit pour qu'on puisse voir. La belle promesse ici nous dit que Jésus s'arrêtera pour toi. Je ne sais pas comment il va continuer à écouter les anges et faire toutes sortes de choses, mais pour moi, je vois ça dans le texte qu'il y a un emphase spécialement pour moi. Le reste, hein, l'histoire, c'est beau. Jésus l'a appelé, le monsieur. Et il a dit, « Que veux-tu que je te fasse? » Et Bartimée a dit, « Rabboni. » Lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Frères et sœurs, quand la Bible nous parle de la foi que nous avons besoin en tant qu'Église de la Laodicée, c'est une foi qui va crier. Une foi qui réalise notre situation spirituelle et qui persiste. Il y en a qui ont dit, arrête, arrête, Jésus ne veut pas t'entendre, arrête, juste reste où tu es, ton niveau spirituel, t'es correct, déjà tu donnes des études bibliques, déjà, arrête. Mais lui, il savait qu'il était aveugle. Il savait que ce n'était pas correct. Il a continué de crier, crier et crier. Et je peux vous dire une chose, que quand vous criez, ça agace les autres. Ça énerve les autres. Mes frères et sœurs, criez. Parce que c'est votre seule source de salut, c'est Jésus-Christ. Dans Hébreux chapitre 10, est-ce qu'il y a d'espoir? Hébreux chapitre 10, on va le lire un peu plus clairement à propos de la conscience. Hébreux chapitre 10, le verset 22. La Bible nous dit, « Approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une quoi? Mauvaise conscience. » Alors ici, on voit dans Hébreux chapitre 10, c'est possible d'avoir une conscience quoi? Purifiée. Comment ça peut arriver ça? Hébreux chapitre 9, le verset 14, ça nous dit, « Combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant? » Frères et sœurs, il y a de l'espoir. L'espoir, c'est que Jésus, par la puissance de son Saint-Esprit, si nous crions, si nous pleurons, si nous implorons le trône de Dieu, pas une fois, deux fois, mais constamment. Et comme on a déjà lu, c'est que si on a violé notre conscience, c'est pas quelque chose qui arrive dans une journée. Mais la promesse est que si nous en pleurons continuellement, constamment, il y a quelque chose qui va arriver que Jésus est capable de purifier et rendre notre conscience encore sensible. Ici, ça nous dit, l'esprit de prophétie, votre conscience a été violée et elle s'est endurcie. Mais si vous suivez le droit chemin, elle retrouvera sa sensibilité. Amen. Une autre place, elle nous dit, « Nous avons besoin de ressentir la puissance de conversion de la grâce de Dieu. Et j'exhorte tous ceux qui ont fermé leur cœur à l'Esprit de Dieu de décadenasser la porte et de plaider avec ferveur, demeure en moi. » Pourquoi ne nous prosternerions-nous pas devant le trône de la grâce divine, priant pour que l'Esprit de Dieu puisse être déversé sur nous comme il le fut sur les disciples? Sa présence adoucira nos cœurs endurcis, nous remplira de joie, nous transformant en canaux de bénédiction. Alors, frères et sœurs, je vais juste reviser ce qu'on a appris aujourd'hui et on va fermer. Principe numéro 1, on a réalisé que... Je vais vous laisser me dire, c'est quoi le principe numéro 1? La conscience nous aide à discerner le bien du mal. Comment ça fait ça? Par la conviction de ce qui est mal. Le point numéro 2, est-ce qu'on peut toujours faire confiance à notre conscience? Non. Alors, point numéro 2, ça existe des consciences quoi? Souillées. Souillées. OK? Point numéro 3, non seulement les consciences peuvent être souillées, mais ils peuvent aussi être désensibilisées ou même cicatrisées. Point point numéro 4. Notre conscience peut être rendue à un tel niveau que là, on pêche contre qui? Le Saint-Esprit. Et pense pas que ça peut pas t'arriver, ça peut pas m'arriver. Que si nous sortons pas de cet état de Laodicée, c'est garanti que ça va t'arriver. La confiance peut seulement être fiable quand elle est éduquée avec quoi? La parole de Dieu. Merci. C'est qui a donné la conscience? C'est Dieu. L'église de Laodicée, c'est quoi leur problème? Ils ont beaucoup de problèmes. Mais c'est quoi un problème qu'on a parlé ce soir? Ils sont aveugles, mais vraiment, c'est quoi? Ils ont une conscience. Ils sont conscience souillée, conscience peut-être plus désensibilisée. Ils sont presque rendus une conscience qu'on ne peut même pas faire confiance. Ils sont à un ou à deux pas. Mais de l'histoire de Bartimée, qu'est-ce qu'on peut apprendre? Que quand un jeune ou un moins jeune s'agenouille, réalise qu'ils sont aveugles et commence à crier et à plaider pour que Dieu ait pitié d'eux. Qu'est-ce qu'on peut avoir une confiance ou qu'est-ce que la Bible dit que Jésus fera pour nous? Elle est purifiée. Et dans l'histoire de Bartimée, ça nous dit quoi? Jésus va s'arrêter pour toi. Incroyable. Le Sauveur que nous servons, tel amour intense qu'il a pour nous. Alors, frères et sœurs, je ne sais pas si vous avez appris quelque chose ce soir, mais si vous oubliez tout, souvenez-vous, on est aveugle, mais il y a un remède. Souvenez-vous qu'on ne peut pas se fier à notre conscience. Parce qu'on pense qu'on est correct, puis vraiment, on n'est pas correct. Mais si on pleure, si on crie, et si on implore le trône de Dieu et on dit, « Seigneur, s'il te plaît, je ne pleure pas parce que je sens le remords, mais la raison que je pleure, c'est que je ne sens pas de remords. S'il te plaît, fils de David, aie pitié de moi. » La promesse est que Dieu viendra. Il enverra son Saint-Esprit qui va sensibiliser nos cœurs. Ce n'est pas quelque chose qui arrive dans une journée, mais je peux vous garantir, je ne suis pas parfait. Mais une fois que j'ai commencé à implorer le trône de Dieu, c'est incroyable les choses que ça commence à m'affecter. Ça commence à m'affecter qu'avant, je pouvais voyager puis voir les gens, puis je m'en fous qui sont au ciel ou non. Ça ne me passait même pas dans la tête. Mais maintenant, tu passes et tu vois les gens et tu commences à avoir une conscience sensibilisée de la parole de Dieu et tu penses, cette personne à qui je paye pour le gaz, si cette personne n'est pas au ciel, peut-être le ciel, ça ne sera pas la même place. Que peut-être je devrais partager quelque chose avec eux. Au pire, aller peut-être même prier pour cette personne dans ma tête, mais ça change ta vie. Incroyable! Quand tu commences à plaider pour que l'Esprit Saint vienne dans ta vie.